suite d'un cancer.
Ce soir sur France Inter, Adèle en concert en direct de la Cigale. À partir de 21h, retrouvez Adèle. La nouvelle diva de la soul vous offre son unique concert en France en direct sur France Inter. Adèle en live sur France Inter. Un événement exceptionnel en direct de la Cigale. Une soirée présentée par Joe Farmer. Ce soir, à partir de 21h. France Inter présente Pina, un film de Wim Wenders pour Pina Bausch. Wim Wenders rend hommage à la chorégraphe en plaçant sa caméra pour la première fois au plus près de ses danseurs, d'abord sur scène, puis en les accompagnant dans une évasion hors les murs, dans des espaces naturels et des paysages urbains. Pina, au cinéma le 6 avril, en 3D dans les salles équipées. Retrouvez Wim Wenders le 10 avril à 10h dans Éclectique. France Inter.
La différence.
15h04 et vous retrouvez Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis.
Il y a un trou dans le seau, chère Lise, il y a un trou. Cher Jacques, bouche-le, cher Jacques, bouche-le. Avec quoi le boucher, chère Lise, le boucher. Avec un roseau, cher Jacques, avec un roseau. Vous vous rappelez, c'était Guy Béard et Marie Lafourré qui nous chantaient cette petite chanson agreste. Je vous embrasse tous, c'était Fabienne.
Bonjour Daniel, c'est la manifestation pour la défense de l'hôpital. André Chassel qui nous fait un discours. Entendez-le tous. Voilà, je pense que c'est fini, c'était Michel Laurent. Merci, au revoir.
Ça y est. C'est sûr, Chirac, le bandit préféré des Français, va enfin être jugé. C'est sorti ce matin, il n'aura plus d'excuses, plus de différés, même plus d'avocats, plus rien, il va être jugé, un point, c'est tout. Et pas seulement pour les emplois fictifs de la mairie de Paris, mais aussi pour ses frais de grande bouche, les marchés truqués d'Île-de-France, le classement de son château de Biti, aussi pour ses mensonges concernant le nuage de Tchernobyl. Et oui, c'était lui le Premier ministre à l'époque. Oui, Chirac va enfin être face à la justice comme n'importe quel petit dealer de shit. Il va être, comme tout le monde, condamné, déshabillé à l'entrée de la prison, palpé, mis à poil, en pyjama, sous les verrous. Il va mal bouffer, comme tout le monde. Il va peut-être se faire violer sous la douche, comme tout le monde, à neuf dans une cellule pour deux. Il devrait, paraît-il, en prendre pour 50 ans. Vous imaginez le grand Jacques derrière les barreaux et Bernadette aux oubliettes. Fini le copinage, les 40 000 euros mensuels non imposables, les protections, les privilèges d'empereur. Ce soir, Jacques Chirac passe enfin devant la justice. Et plutôt que de se faire dorer la pilule à vos frais, il va enfin y finir ses jours, aux frais, comme tout le monde. Ah, quelle belle justice équitable et indépendante. La France, enfin une vraie démocratie, on en rêvait, on n'osait plus y croire. C'est fait. Aujourd'hui, Chirac est jugé, condamné, écroué. Ah, quel beau 1er avril. C'était un espoir de Pascal, de Lyon.
Salut Daniel, je suis extrêmement content d'avoir entendu ton invité d'aujourd'hui, ce vendredi 1er avril, qui a conclu l'émission avec une opinion que je n'avais pas du tout entendue depuis longtemps. Celle de souligner à quel point on s'était engagé avec notre cher président de la République sur un coup de tête alarmant et à quel point c'était alarmant de la façon dont on suivit cette coalition internationale dans cette guerre avec la Libye. Et c'est inquiétant parce qu'effectivement, on a une girouette au pouvoir et on n'en a pas qu'une, il y en a un peu partout. Je suis content que ça ait lieu sur cette émission parce que j'étais déçu que certains journalistes, y compris à France Inter, soulignent le fait que c'était une bonne chose que la France finalement se positionne et dise on va aller attaquer la Syrie et que personne n'ait noté qu'en deux jours, on a changé d'opinion de cette façon-là. Voilà. Alors, un petit coucou et à bientôt. Salut.
J'ai entendu Ronnie Broman, je pense que dommage de parler comme ça, c'est-à-dire on ne peut pas fustiger la non-réaction, il faut qu'on fasse quelque chose, les Occidentaux, etc., dès qu'il y a un problème. Et puis quand on intervient, il faudrait que ça soit préparé. Je trouve ça complètement injuste, décalé. Je trouve que la guerre, c'est terrible, mais parfois, il faut la faire. Je me pose juste la question, étant un petit-fils de résistant, si on s'était posé la même question sur les troupes américaines qui sont venues nous libérer. Je pense que les tergiversations, pendant que les gens, notamment de ma famille, étaient arrêtés, torturés, etc., on se disait, est-ce qu'on a le droit? Est-ce que ça sera efficace? Est-ce qu'ils sont organisés, ces résistants? Voilà, je pense que ce qui s'est passé, c'est plutôt un geste courageux de la part de la France. Et faut arrêter d'être contre tout, quoi. À bientôt.
Vous avez remarqué comment on joue sur les mots dans le Parti Socialiste? Et voilà, dans le programme qu'ils ont pondu ce week-end, ils sont prêts à ce que la France sorte du tout nucléaire. Alors, tout est dans le mot « tout », le tout nucléaire. Ça va pas être difficile de sortir du tout nucléaire, puisqu'on n'est déjà pas dans le tout nucléaire, puisque la France produit 20% de son électricité de manière thermique ou hydraulique. Donc les socialistes sont en train de nous entuber, une fois de plus, ils ont toujours été très très champions. Non, ce qu'on veut, nous, c'est sortir du nucléaire, c'est pas sortir du tout nucléaire. Ça va être trop simple, il suffira d'arrêter une centrale ou deux, puis ils auront rempli leur mission. Voilà, bon, et ben c'est pas comme ça que vous allez vous faire élire en 2012, moi je vous le dis. Ciao.
Merci pour tous ces messages, chers AMG. Aujourd'hui, on va tous ensemble camper en haut du terril. Ouais, en haut du terril, on peut camper, on va installer un petit campement là. Et puis on va regarder ce qui se passe en bas du terril. On va à Nœux-les-Mines, exactement. Nœux-les-Mines, j'en vois déjà qui rigolent dans leur coin bêtement. Nœux-les-Mines, dans le bassin minier, non loin de Lens. Et il y a encore là des terrils, et en bas des terrils, il y a des maisons, une ville qui s'appelle Nœux-les-Mines, où l'on se bat. Où l'on se bat, comme partout ailleurs en France, contre le démantèlement de l'instruction et de l'éducation en supprimant des postes. Vous avez entendu dans les messages de là-bas, si j'y suis, nombre d'établissements où les profs, les enseignants et les parents d'élèves, très souvent, sont unis dans un même combat contre la destruction d'une civilisation. Je reprends les termes employés l'autre jour de Pierre Bourdieu, 1995, Pierre Bourdieu, décembre 95, à la gare de Lyon, qui vient soutenir les cheminots, les grévistes contre le plan Juppé qui s'en prenait déjà à l'assurance santé et aux retraites. Eh bien, Pierre Bourdieu parlait de destruction de civilisation. Eh bien, c'est vrai, 16 ans après, il faut reconnaître qu'il avait parfaitement raison, c'est ce qui se passe, non seulement, comme on l'a vu jeudi dans le reportage d'Antoine Chao, au niveau de la forêt, mais évidemment, peut-être en priorité, à propos de l'éducation, ce que Bourdieu évoquait d'ailleurs dans ce discours. Là, c'est plus du discours, c'est la réalité. Et nos profs, enseignants et parents d'élèves, je le disais, se mobilisent, et notamment là, à Nœux-les-Mines. C'est une des profs du lycée d'Artois qui nous a contactés et qui nous a dit « Venez voir un peu ce qui se passe là ». Et voilà, c'est là qu'on va aujourd'hui avec Charlotte Perry, tout en haut du terril. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour Daniel Mermet, son équipe et tous les auditeurs. Nous vous appelons de Saint-Hippolyte-du-Fort dans le Gard, où l'on annonce encore une fermeture de classe à l'école maternelle pour cause de manque d'effectifs sur un an seulement, ainsi que la disparition du réseau d'aide, le RASED. Parents d'élèves, municipalités et l'ensemble de la population de Saint-Hippolyte-du-Fort sont en colère et se mobilisent contre cette fermeture. Depuis ce matin, nous retenons la directrice de l'école ainsi que l'adjoint aux affaires scolaires et nous occuperons l'école jour et nuit jusqu'à la décision de l'inspecteur de l'académie. Des classes de 30 élèves et plus, une baisse significative de la qualité de l'apprentissage, une disparition de l'aide apportée aux enfants en difficulté, est-ce l'avenir que l'on veut pour nos enfants? Non, l'école ne se gère pas comme une entreprise, défendons notre école. C'était le collectif des parents d'élèves de l'école de Saint-Hippolyte-du-Fort, où vous pouvez nous joindre. Merci, au revoir.
Bonjour Daniel. Le prochain rendez-vous du Café Repère de Saint-Péray en Ardèche aura lieu lundi 4 avril, toujours à 20h et toujours à l'hôtel Badet. Pour cette occasion, nous recevons Pierre Coulon, vice-président de la CRIRAD de 86 à 2000, qui viendra nous parler de l'information sur le nucléaire, comment la décrypter, comment la comprendre. Sommes-nous bien informés sur le nucléaire? Voilà, je vous attends nombreux. À lundi, c'était Cyril d'Ardèche. Ciao, ciao.
Ce lundi 4 avril, le Café Repère d'Anduze ouvrira ses portes à 19h30 au Triboulet, rue Boucry. 19h30, une soupette plus tartine et à partir de 20h, un débat. Quand et comment sortir du nucléaire qui sera animé par Pierre Péguin. Soyez nombreux.
On est un secteur effectivement très bouché, où il y a beaucoup de demandeurs d'emploi, où effectivement les derniers chiffres, donc pour la région, c'était quand même 15% de personnes illettrées. Donc effectivement, le fait de retirer les moyens au niveau de l'école, on ne va pas aider effectivement les futurs étudiants et les futurs lycéens.
L'histoire géo en S devient une option. Donc c'est dramatique, il brade toute l'éducation, quoi. On ne peut pas accepter ce genre de choses-là, c'est pas possible. Moi, je pensais que l'éducation, c'était pour former des citoyens avant tout.
Parfois, dans ma fonction, même souvent, dans ma fonction, je ne fais que reproduire des inégalités sociales. C'est le contraire de ce pourquoi j'ai enseigné, en fait. Et c'est ce qu'on dénonce. Dans le fond, les histoires de moyens, de chiffres, de classes, on dénonce en fait un système dans lequel on est obligé, si vous voulez, de se soumettre à cette logique de la reproduction sociale.
Est-ce que vous vous y êtes déjà allé au musée des mines?
Non.
Non.
Quoi? Vu le poids que les mines nous met sur la tête, on en a rien à foutre des mines. Non mais on a des préjugés par rapport aux mines. Je veux dire, exemple, on envoie des dossiers pour Paris ou des classes comme ça, ben de les mines tout de suite ça fait ça fait petit mineur, voilà. Ben, c'est quand même bête de partir avec un boulet dès le début. Donc le musée des mines se transforme moi.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Charlotte Perry, à Neuilly-les-Mines, tout en haut du terril. C'est là qu'on va camper. Flight number 2, arriving from New
York. Bonjour.
Bonjour.
Donc là, on est à Lille, c'est là où vous habitez, non?
À côté de Lille, ouais. J'habite à Lambersa, la banlieue de Lille. C'est à une heure à peu près en voiture de mon lycée, de Neuilly-les-Mines. Pas du tout le même décor. Comme on peut le voir, la gare Lille-Europe, c'est très futuriste. Quand on rentre dans la gare, on est entouré par des gens qui, visiblement, sont dans les affaires, très affairés, très occupés, etc. C'est pas tout à fait le même décor que le lycée.
Et donc là, on part vers Neu.
On va faire un petit tour, justement, de la transition entre cette hyper-modernité de la gare Lille-Europe et puis cette très grande différence avec le lycée dans lequel je travaille et puis le caractère un peu profond de la région du bassin minier.
Vous êtes professeur de quoi déjà ?
De philo.
D'accord. Bon bah c'est parti.
C'est parti.
Voilà, vous avez compris où nous sommes à Lille et nous allons vers le bassin minier, vers Neuilly-les-Mines, toute cette région française qui est une région historique, très caractéristique du nord de la France. C'était les mines, c'était les terrils, c'était les corons. Et aujourd'hui, l'activité, vous le savez bien, est arrêtée au niveau des mines. Et ces régions survivent souvent difficilement, mais avec avec ténacité, avec des idées, avec une envie de résister et de se battre contre la destruction voulue par ces gouvernements, par nos États, par une politique générale de réforme des politiques publiques qui veut détruire ces emplois et ces postes d'enseignants. Partout en France, là on est à Neuilly-les-Mines, mais on pourrait être dans beaucoup d'autres villes et villages de France où des enseignants et souvent, je le disais, des parents d'élèves se battent contre ces destructions de postes, donc contre un affaiblissement, une perte de qualité de l'enseignement et aussi un accroissement des inégalités par rapport à l'enseignement. J'ai sous les yeux un texte court qui date de 1792 et qui fut signé d'un certain Condorcet concernant 1792, l'Organisation Générale de l'Instruction Publique. Écoutez ces quelques lignes. « Tant qu'il y aura des hommes qui n'obéiront pas à leur raison seuls, qui recevront leurs opinions d'une opinion étrangère, en vain, toutes les chaînes auraient été brisées, en vain, ces opinions de commande seraient d'utile vérité. Le genre humain n'en resterait pas moins partagé entre deux classes, celle des hommes qui raisonnent et celle des hommes qui croient. » Celle des maîtres et celle des esclaves. Magnifique souffle d'idées, de pensées, de philosophie et de politique sur l'instruction publique qui est contenue dans cette phrase de Condorcet. On en est toujours là. Et les profs qu'on va rencontrer, les parents et les élèves eux-mêmes partagent ce sentiment que l'éducation est une émancipation pour tous et pour toutes grâce à la connaissance, grâce à l'instruction, grâce à la culture en général, eh bien, chacun de nous peut individuellement et collectivement s'extraire de la nuit, de l'obscurité, de la croyance et de la crédulité. Et ça, c'est magnifique. Et ça, c'est ce souffle merveilleux qui traverse toute notre histoire et que les politiques actuelles entendent rompre, avec lesquels nos politiques actuelles veulent rompre. Et dans ces enseignants, eh bien, il y a ce souffle qui traverse, qui passe, et auquel nous sommes très attachés, en tant que nous nous voyons, nous, tout modestement et tout génialement, à la base, j'y suis, comme une petite émission d'éducation populaire. Et nous sommes donc, vous avez compris, ensemble, avec ces enseignants, avec ces élèves, et avec cette petite ville de Neuilly-les-Mines et nous montons tout en haut du terril jusqu'à 16h. Là-bas, c'est j'y suis.
À la puberté, vers 13 ans, je devais prendre les devants pour assurer mes arrières et m'orienter dans une filière. Au regard de mon évaluation, je voyais rétrécir sur l'horizon. L'avenir qu'on tissait pour moi était gai comme un chemin de croix. J'ai écouté le conseiller face de prout, disserté sur la conjoncture, noircir le tableau des coups durs. Et au carrefour des métiers, j'ai fait une poussée d'acné. Les trompettes de la renommée sont toujours aussi mal embouchées. S'assurer, s'assurer, s'assurer pour plus tard. S'assurer pour plus tard, c'était le grand devoir. S'assurer, s'assurer, s'assurer pour plus tard. S'assurer pour plus tard, c'était le grand devoir. Comme je fais plein d'idéaux, je me voyais bien faire Zorro. Traquer le Jean-Pierre Gaillard et tous ses banquiers tocards. Sur ma fiche d'orientation, voulant faire le fanfaron, je notais charmeur de serpent dans un rêve près d'Abidjan. Artiste itinérant et la fierté de parents, que chacune de mes nuits attire le tout Paris. Finir couvert de dettes, des dettes plein la tête. S'assurer, s'assurer, s'assurer pour plus tard. S'assurer pour plus tard, c'était le grand devoir. S'assurer, s'assurer, s'assurer pour plus tard. S'assurer pour plus tard. plus tard, c'était le grand devoir.
Là, on a pris l'autoroute, c'est ça ?
On est sur l'autoroute qui ceinture l'île et qui va nous permettre de nous diriger vers le bassin minier. Là, on va passer à côté d'un campement de gens du voyage, juste ici, qui est un campement qui est très grand.
Ah oui, on voit les caravanes
là. Parce que c'est un campement qui est là depuis longtemps. Ils ont installé des petites maisons en plastique pour les enfants.
Ouais, des jeux d'enfants, là, on l'a vu.
Des jeux d'enfants. C'est terrible, leur situation. Et il y a une espèce de cécité à leur endroit, comme il peut y avoir aussi une cécité volontaire ou involontaire, je ne sais pas, à l'égard des gens qui vivent dans des conditions très très mauvaises dans les petites villes du bassin minier. Évidemment, les conditions ne sont pas les mêmes, économiquement parlant. La condition des gens du bassin minier est quand même plus enviable que celle des Roms. Ils ne sont pas réduits à la mendicité. Mais ils sont dans cette même situation où on ne les voit pas. Un petit peu comme les Blancs en Afrique du Sud ne voyaient pas les Noirs avant la fin de l'apartheid. Là, c'est pareil. J'attends le jour où les gens du Nord se rendront compte qu'il y a des pauvres dans la région. Et c'est vrai que c'est dommage, parce que je pense vraiment qu'une partie de l'acrimonie politique des classes très populaires du bassin minier vient de là. Vient du fait qu'ils ne sont même pas entendus, mais même pas vus, pas regardés et pas vus. Donc là, on arrive à Hochilémine.
Ouais, là, on est rentré dans Hochilémine.
Voilà, qui nous accueille avec sa ZAC, donc sa zone d'activité commerciale, sa friterie et toute une série de magasins discount. Parce que,
et là, derrière, c'est quoi ? Ça ressemble à une vieille usine avec une cheminée
abandonnée. Donc on va retrouver toute une série d'usines abandonnées et beaucoup de friches industrielles ici. Et on va arriver, donc, passer cette ZAC à tout un endroit où les maisons sont minuscules. Des toutes petites maisons qui doivent faire 30-40 mètres carrés. En général, c'est proposé pour 80 000 euros, des maisons comme ça. C'est vraiment des boîtes à vivre. On y a le minimum, mais le minimum respectable. On peut regarder les beaux rideaux, etc. Mais c'est terrible.
Certains ne sont même pas peintes.
Voilà, c'est du parpaing, c'est vraiment... Mais toujours avec ce souci que la maison soit agréable à regarder autant que c'est possible. Donc des maisons très, très, très précaires. Souvent, les personnes ont beaucoup travaillé le jardin, ont mis de très beaux rideaux, fenêtres, enfin... Des rideaux très, très soignés, très, très choisis. Et il y a vraiment un souci, de la même manière que pour l'apparence et le souci d'aller chez le coiffeur, un souci de respectabilité, de montrer qu'on est des gens bien, on veut s'en sortir, on n'a peut-être pas grand-chose, mais on essaye de faire comme on peut.
Là, on est rentré dans Sailly.
Dans Sailly, la Bourse, oui. Voilà, la Cité Neuve. Sailly-la-Bourse, Cité Neuve.
Sailly-la-Bourse, mais en fait, le S est tombé, donc il reste Aï, et puis le R est tombé, la Bousse.
La Bouse.
La Bouse.
Je pense qu'on a aidé le R à tomber.
Parce qu'il y a la cité, et puis autour, des champs, et puis de l'autre côté, la route.
Et le Netto, le supermarché de hard discount. Et donc, c'est ça, tout pareil, tout pareil.
Avec des maisons mitoyennes et le jardin séparé par une petite clôture.
Et des beaux rideaux.
Et des beaux rideaux.
C'est fondamental. Et donc, ça, c'était un vrai coron d'autrefois, quoi. Un vrai coron d'autrefois.
Cité Neuve, ouais. Donc, les corons, là, comme ça, c'était là où habitaient les mineurs, en
fait. Voilà, c'est ça. C'est, c'était le meilleur moyen de les avoir sous surveillance. C'est une des plus belles illustrations du paternalisme industriel du 19e siècle. On leur fournissait le logement pour être sûr qu'ils soient à proximité de leur travail, pour limiter les temps de transport de manière à ce qu'ils soient disponibles tôt le matin et corvéables jusqu'à tard le soir sans avoir de raison de s'absenter puisqu'ils logeaient à côté. Ça faisait un moyen de pression parce que lorsqu'ils perdaient leur emploi, ils perdaient leur logement. etc., etc. Donc on leur fournissait tout, mais c'était aussi un moyen de se concéder leur total dévouement, puisqu'ils devaient tout à leur employeur. Ah, des boiteurs, des boiteuses en plus qui font ça en dehors de l'école.
Qu'est-ce que c'est que des boiteurs et des boiteuses ?
C'est des gens qui distribuent des prospectus publicitaires dans les boîtes aux lettres. Et là, à mon avis, ces deux-là, elles ne sont pas majeures. C'est-à-dire que c'est des gamines qui devraient être à l'école et qui n'y sont pas. C'est le prof qui se réveille, hein, je suis désolée. Mais elles n'ont pas 14 ans, ces deux-là, et elles ne devraient pas être là. C'est-à-dire qu'il y a des chances que ce soit leurs parents qui leur aient demandé de donner un coup de main, parce que bah, c'est le seul moyen. Et elles ont leur sac d'école sur le dos. Mais il est 10h20, un mardi, elles ne devraient pas être là. Ça, c'est un autre problème qu'on a, c'est le nombre d'élèves qui travaillent, qui ne viennent pas en cours le samedi ou le mercredi parce qu'ils travaillent.
Donc là, on est rentré dans Neulémine, c'est ça ?
Voilà, c'est ça.
Et un accordéon. À Neulémine. Les gens de Neulémine vont se dire, bah dis donc, les parigots là-bas, à France Inter, dans la basse où j'y suis, pour eux, dès qu'on dit le Nord, dès qu'on dit les mines, c'est l'accordéon. C'est vrai, c'est un peu clicheton, mais on aime beaucoup ces clichetons-là, même si ça correspond évidemment pas beaucoup ou pas tellement aux réalités. C'est une auditrice que vous venez d'entendre et qui s'appelle Camille, qui nous a adressé un courrier, qui nous a accroché lorsqu'elle nous a raconté que le lycée dans lequel elle est prof de philo, donc, va fermer par la suite des suppressions de postes qui sont en perspective, un tiers des postes qui partent, et donc ce serait, dit-elle, le risque de fermeture du lycée d'Artois. Et si le lycée meurt, nous écrivait-elle, la ville mourra et tous nos gamins n'auront plus d'autre espoir que d'être chômeurs et rémistes ou parents à 25 ans pour pouvoir survivre. Voilà ce qu'on est allé voir sur place avec Camille comme guide. Mais pas seulement. Neulémine, pour nous, avant tout, et quand même pour les gens du coin, c'est la mémoire de la mine. C'est ces terrils qui sont toujours là. À Neulémine, on avait fait une tentative de faire transformer l'un des terrils en piste de ski. Et c'est Monsieur Clarisse, adjoint aux travaux, qui nous présente cette ville et ses environs.
Ici se trouvait une chaîne de terris qui partait de la mine qui se trouve là-bas, la mine du numéro 3, vous voyez le bâtiment en rond, arrondi.
Ah oui, oui, oui.
C'était la mine. Là était extrait le charbon et tous les résidus de charbon triés faisait les terris. Et ici, il y avait une chaîne de terris tout le long.
Donc là, on se trouve tout en haut d'un des terrils.
Oui, du dernier de la chaîne, de Neulémine, tout au moins.
Vous vous appelez comment ?
Monsieur Clarisse, je suis adjoint au maire, adjoint aux travaux. Ici, vous aviez les mines de Neulémine. En face, vous avez à Ycourt, vous avez Bruay. Là, on voit les terris de Bruay de Lens et des environs de Lens. Le Louvre se trouve là-bas, juste derrière les deux grands, là-bas.
Le Louvre.
Le futur Louvre. Louvre à Lens. Le Lens qui est 20, voilà, Louvre.
Donc il y a un projet d'ouverture d'une succursale du Louvre à Lens, c'est ça ?
Oui. Oui, oui, exactement.
Alors vous, ici à Neulémine, vous n'avez pas le Louvre, mais vous avez une piste de ski, nous, juste devant nous.
Une piste de ski et on a un lac.
Ah oui, qui est en face, là.
Qui se trouve en face, qui se trouve à l'emplacement d'un terri, qui a été enlevé. Ici, c'est les premiers qui ont fermé. Neulémine fait partie des premiers sites, des premières mines qui ont fermé. D'où, avec des dépôts de schiste, qui étaient quelquefois des dépotoirs. Donc, il a fallu s'attacher à l'image, puisque c'était noir, c'était sombre. Et donc, cette image que Monsieur le maire a rejetée tout de suite, à partir de là, est née cette idée d'amener du loisir et aussi de surtout requalifier le site. C'est joli quand on est en haut d'un terri. C'est très beau. Vous avez les collines d'Artois, là. Là en face, vous avez la ville de Saint-Goël. Nos limites démarrent là au rond-point qui se trouve devant, sur la rue nationale. Et puis après, vous avez toute la ville qui fait 3 km de traversée.
Vous, vous êtes né ici ?
Oui. Mes parents habitaient juste en bas. Ils tenaient un café. Donc, sur la route, des gens qui partaient travailler. Donc, j'ai connu ces gens partir travailler le matin de bonne heure, partir, passer au café. Bon. Et toutes les Ducasses, qu'on appelait les Ducasses, parce qu'on était très festifs, on faisait des fêtes, beaucoup de fêtes. On vivait joyeux, parce que la vie des mineurs, malheureusement, elle était souvent courte, parce que la silicose détruisait la vie des gens. Et nous avons les pieds sur les vestiges avec beaucoup d'histoires, beaucoup d'histoires. Les gens ont laissé leur vie, beaucoup. Ce qui est aussi un symbole. Les terris sont aussi le symbole de la difficulté du travail et justement sur toutes ces vies qui ne sont pas arrivées à terme. Les gens mouraient très jeunes. Quand M. le maire, pour la première fois, a dit qu'il allait faire un ski sur le terri, nous avions des adjoints au maire qui étaient mineurs. La première chose a été de dire « Mais comment ? C'est quasiment un sacrilège d'aller skier sur nos terris. » Aujourd'hui, vous avez encore les derniers mineurs qui ont encore la silicose, qui sont sous oxygène aujourd'hui, en attendant de mourir avec beaucoup de douleur. Il y a toujours des séquelles ici.
D'Achet Coron, cœur mu, ménage. Les mineurs viennent d'avoir leur congé, prennent leurs valises et partent voyager à la campagne, ouvrir leur parenté. Mis comme mes hôtes, je prends mes bagages et je m'avance, mais je quitte pas ma patelin. Je vaux du pays, v'là de manière que je m'y prends. Sans débourser un sou de train. Et je passe mes vacances tout en haut des chéris. J'ai tout dit de la chance et le terraillé jamais pris. Je monte et me toilette tant que je vis tout seul et je m'arrache. Et si fais-je rire, je campe et suis heureux de faire du campache. Je me fais la popote et je vis pas mieux qu'à l'hôtel. Je mets comme les cocottes du rouge à mes orteils. Du haut des couplettes, je me crois à Chambéry. Mais je suis copette tout à haut des chéris.
Donc là, on se trouve sur devant l'école maternelle.
C'est l'école Sainte-Barbe, justement, patron des mineurs. Donc vraiment, on est à Nœuds-les-Mines dans tous ses symboles.
Vous vous appelez comment là ?
Donc Hélène Le Gallois, professeure documentaliste au lycée d'Artois de Nœuds-les-Mines. J'y suis depuis 11 ans. Moi je gère le CDI,
le centre de documentation
et d'information. Le côté de vouloir fermer un peu les petits bahuts et puis rassembler tous les élèves dans des grosses structures, des grosses usines à élèves où il va y avoir 1000 élèves, 1200 élèves, 1500 élèves, 200 profs, etc. Par exemple, si vous prenez le CDI, il y aura toujours qu'un seul CDI par établissement, avec un documentaliste, peut-être un personnel supplémentaire. Et quand vous avez 1000 élèves, vous pouvez pas avoir une qualité d'accueil, une qualité d'écoute, commencer à discuter, des lectures, suggérer. Vous pouvez pas, vous faites du gardiennage en série, et puis vous avez plus le temps de parler du quotidien des élèves, de ce qu'ils ont aimé, de discuter. Il y en a plein qui vont passer à la trappe, et on sait. Lesquels vont passer à la trappe, c'est toujours les mêmes. C'est toujours ceux qui n'ont pas les moyens chez eux, c'est toujours ceux qui n'ont pas les parents pour les pousser, qui n'ont pas spontanément la démarche d'aller, la curiosité d'aller vers autre chose. C'est tous ceux-là qui vont passer à la trappe. L'indicateur, enfin moi c'est quelque chose qui m'a frappée quand je suis arrivée au lycée de Nœuds, du nombre de grossesses par an. J'étais sidérée, c'était 10-12 par an de gamines qui tombent enceintes. Pas forcément involontairement, c'est-à-dire qu'il y en a pour qui le projet d'avenir c'est de faire un enfant et qui vous explique tout sourire qu'il existe l'allocation parents isolés, donc ça va être chouette, elles vont vivre avec ça, elles vont avoir un enfant à s'occuper à elles, c'est chouette, enfin, c'est assez étonnant quoi. Et encore une fois, c'est pas un jugement de valeur, c'est juste de se dire que c'est sûrement des gamines à qui on n'a pas expliqué qu'il y a peut-être autre chose dans la vie que de faire un môme à 16 ans. Oui, oui, je pense qu'il y a une majorité de grossesses qui sont des grossesses désirées. Parce que pour elles, l'école, elles ne voient pas forcément ce que ça va leur apporter, que d'avoir un bébé, c'est un vrai, une réalisation quelque part. Elles se réalisent à travers ça. C'est aussi révélateur du public qu'on a, au même titre que le nombre de boursiers ou les parents chômeurs. C'est cette ambition, c'est de leur donner de l'ambition qui est vachement important, moi, je trouve, parce que... si on n'est pas là pour leur donner, ben, ils se contentent, entre guillemets, du petit horizon habituel.
Donner de l'ambition aux élèves, souvent les enseignants que nous rencontrons avec Charlotte, Berry, sont, voilà, ils veulent que les élèves aient de l'ambition. Mais c'est un peu une ambition individuelle. On n'entend pas beaucoup d'idées d'ambition collective, de lutte collective. Mais enfin, on est tranquillisé puisqu'on a maintenant entre les mains les projets du programme du Parti Socialiste. Donc tout ça va sans doute, dans les mois qui viennent, s'arranger. On est toujours au lycée d'Artois. Et là, on est avec Omérine. On est dans une salle qui a été prêtée par la mairie. On est samedi matin, le 19 mars. Et les élèves et les profs du lycée d'Artois, de Neuilly-Mines donc, préparent les pancartes pour la manif de l'après-midi.
Vous vous appelez comment ?
Omérine. Donc, je suis en terminale commerce bac pro, en professionnel. Donc, j'ai marqué donc un SOS devant et LEP en danger derrière, quoi, pour... dire que voilà, on est là, on existe, et dans le secteur lycée professionnel, il y a 10 postes qui sont supprimés, donc ça fait très mal, donc on va se retrouver à une quarantaine dans une classe, je veux dire, ça va pas être, c'est pas facile du tout. Je suis déjà dans une classe de 30, donc déjà 30, ça fait beaucoup. Moi, j'ai des frères qui vont arriver en troisième et l'année prochaine partir en section lycée professionnel, bah voilà, je me bats pour nous, je me bats pour eux et pour la génération qui va suivre après. Il faut qu'on se bat, quoi. Moi, ma mère, elle est mère au foyer, quoi. Je veux dire, j'ai une sœur, deux frères jumeaux et encore une petite, la petite dernière qui a 2 ans et 1 mois.
Vous êtes 5?
Ouais.
Et ton papa, il fait quoi?
J'en ai plus. Donc, mais voilà, je veux dire, malgré ce qui se passe dans les familles, tout ça, c'est vrai qu'on a des profs à l'écoute qui sont là pour nous aider, qui sont là pour nous guider vers la voie qu'on veut partir. Et c'est vrai que c'est bien le premier lycée, au lycée d'Artois, qui a des profs qui sont beaucoup à l'écoute. Franchement, moi, ça m'a aidé parce qu'il y a un moment, je perdais... je veux dire, je voulais arrêter les cours. J'en parlais beaucoup aux professeurs et franchement, ils m'ont dit « Non, franchement, accroche-toi. » Enfin, c'est grâce à eux que je suis là, quoi. Moi, je voudrais faire partir dans tout ce qui est carrière sociale, donc soit éducatrice ou assistante sociale. Enfin, moi, c'est surtout, je suis fort pour aider les autres. Donc, moi, je veux aider les jeunes qui sont en difficulté et pouvoir dire que, voilà, il faut qu'ils s'accrochent à quelque chose et qu'ils peuvent avoir confiance, qu'ils peuvent avoir un avenir, quoi, un bon.
C'est parti. Ah ouais.
Elle en pas un petit bac ici, elle rattrape avec son doigt.
Hop, on monte dans le bus.
Bonjour,
Michel.
Dans le fond.
C'est toujours les mauvais élèves au fond.
Non, c'est les révolutionnaires.
Donc là, on est en route vers Lille, c'est à combien de...
35 km.
35 km? Et toi, t'avais déjà manifesté avant ou...
Ben, quand j'étais à Carnot, il y a eu la réforme CPE. Donc oui, j'avais déjà manifesté. Et c'était une belle manifestation parce qu'au bout du compte, la réforme n'allait pas passer, quoi. Là, ça a vraiment bien bougé. J'avais été à Lille, j'avais été à Arras.
Bon, Paris, j'ai pas pu y aller parce que comme c'est quand même plus grand et c'était un peu plus dangereux, bon, bah, ma mère sur ce coup-là, enfin, j'étais encore jeune aussi, ouais, donc j'ai pas pu y aller. Mais sinon, ouais, j'en fais pas mal des manifestations. Ouais, je fais même d'autres manifestations parce qu'en fait, j'avais le meilleur ami de ma mère qui, bah, en ce moment, les licenciements qu'il y a eu dans les entreprises, dont lui travaillait à Beaux-Alles et je faisais les manifestations avec lui.
Les licenciements, par exemple, ça ne te touche pas directement ? Pourquoi tu te
bah, c'est parce que, voilà, je vais dire, le meilleur ami de ma mère a été licencié. Il se retrouve donc avec donc plus de salaire, plus rien. Je veux dire, il y a des enfants. Donc, voilà, ce truc-là, ça m'a touchée. Quoi. Je veux dire, une fois qu'on n'a plus de travail, je veux dire, la famille, c'est... Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça m'a touchée, en fait. C'est... Bon, j'ai pas eu l'exemple même dans ma famille, mais le meilleur ami, j'ai vu plus de boulot. Donc, au niveau pour élever ses enfants, bah, c'est la grosse misère. Donc, c'est normal que j'ai. Mais bon, il a quand même réussi, il y a 50 ans, je crois, il a quand même réussi à avoir une formation et il a réussi quand même à retrouver du boulot, mais c'est pas le cas pour tout le monde.
Entendez-vous sur nos écoles rugir cette féroce rectrice qui vient jusque dans nos classes supprimer nos postes et nos élèves aux armes professeurs former vos bataillons marchons que Marie-Jeanne nous donne sa démission.
Bravo. Marie-Jeanne, c'est qui ?
C'est Madame le recteur de l'Académie de Lille, Marie-Jeanne Philippe.
Voilà, ces slogans, vous les retrouvez à peu près partout en France actuellement, sporadiquement, mais d'une manière très têtue et d'une manière très très forte. Ces résistances persistent et vont sans doute s'organiser à l'échelle nationale. Là, on est le samedi 19 mars, on est à Lille avec les enseignants, avec les élèves, avec les parents d'élèves de la région et on retrouve Camille, notre auditrice, prof de philo au lycée d'Artois à Nulimine.
Camille,
bastination, hein.
Comment ?
Ça change de bastination.
Ouais, on fait quel trajet là en fait ?
On passe devant la gare, on fait la grande rue, la rue Federbe, la rue nationale. On passe devant Médéric, l'entreprise de Guillaume Sarkozy, qu'on apprécie particulièrement ici, qu'on a muré la dernière fois pour la manif des retraites, etc.
Mais pour vous, là, concrètement, ça changera quoi s'il y a ces suppressions de postes au niveau de vos cours de philo ?
S'il y a ces suppressions de postes, c'est une catastrophe, c'est-à-dire que j'ai une fois et demie plus d'élèves. Là, j'ai 87 élèves, je crois. L'année prochaine, avec les suppressions de postes, comme les nouveaux plannings ont déjà été faits, j'aurai 140 élèves. C'est-à-dire que... Là, j'arrive à suivre mes élèves, je me lève à 6h le matin, je me couche à 1h du matin, je réponds à leurs mails, je leur fais des devoirs, je n'ai pas la télévision, je ne vais jamais au cinéma, je lis quelques livres par an, mais pas plus d'une trentaine, et c'est tout ce que j'ai comme loisir, à part les enfants, mais les enfants, c'est pas vraiment un loisir. Je m'occupe essentiellement de mes élèves, j'ai vraiment une famille avec 87 enfants, plus 2. Et je ne sais pas, oui, je ne sais pas comment je pourrais faire quand j'en aurai 150. Moi, ce dont j'ai peur, c'est ça. Je ne pourrais plus promettre à mes élèves de leur donner les moyens de réussir, de passer leur bac en un an, etc. Or, on sait très bien que nos élèves n'ont pas les moyens de passer un bac en 2 ou 3 ans. Recommencer une année, ça leur coûte beaucoup trop cher, à la fois en énergie psychique, parce que dans leur famille, c'est difficile à gérer, et à la fois financièrement. Donc, la plupart vont travailler ensuite sans bac, dans les commerces de la région, ils deviennent chefs de rayon dans telle ou telle grande enseigne de bricolage, etc. Et ça leur donne un espoir de carrière assez limité, avec des licenciements à 45 ans. D'où le taux important de chômage des seniors dans notre région. C'est-à-dire que c'est beaucoup des gens qui ont fait carrière sans diplôme et qui, au moment où leur salaire devient un petit peu trop important, se font licencier. C'est toujours ce que j'explique aux parents d'élèves qui viennent me voir en début d'année. Nos élèves, ils nous intéressent pas seulement pour avoir le bac, parce que le bac, c'est pas grand-chose. C'est la condition sine qua non pour continuer, mais en soi, ça n'apporte rien. Ce qui nous intéresse, c'est ce que deviennent nos élèves à 25 ans. C'est de savoir que nos élèves savent passer un entretien d'embauche et que, par exemple, ils ne resteront pas plantés comme des bornes à ne pas savoir se présenter, à n'avoir aucune aisance sociale. Or, spontanément, on le constate quand on parle avec nos élèves, l'aisance sociale, c'est pas exactement ce qui les caractérise. Ils sont très spontanés, mais ils sont aussi très prompts à se sentir mal à l'aise avec quelqu'un qui n'a pas leur manière de parler et leur manière d'être. Et donc, il y a tout un savoir-être à leur faire acquérir.
Interminable débat, très ancien débat qui traverse l'enseignement, mais qui traverse aussi les parents. Faut-il vraiment adapter les enfants, les élèves à ce monde tel qu'il est, ou bien leur donner les armes pour le changer, pour le transformer? Vieille polémique, vieille histoire qui nous hante et qui est essentielle. On est à Lille, on est devant le lycée, on est avec Nadia, on n'est pas exactement à Lille, on est à Neuilly-les-Mines, pardon. On est avec Nadia qui vient de terminer les cours et il est midi.
Tu t'appelles comment ?
Nadia.
Et t'es en quelle classe ?
Terminale, mercatique et ressources humaines. Nous on est déjà 35.
35 ?
Et des fois on va dire que c'est difficile quand même. Donc si jamais, là, notre prof nous racontait que bientôt, ils vont faire des classes de seconde à 40, bah, les élèves, ils pourront plus poser de questions, quoi. Ils vont devoir travailler et essayer de comprendre chez eux. Ah. Ou alors prendre des profs particuliers, peut-être, mais ça va devenir affreux, quoi. Après, les élèves qui auront les moyens, ils arriveront à réussir, mais les parents en difficulté, ils arriveront pas forcément à payer des cours particuliers. Et les élèves en difficulté, bah, ils n'auront personne à se raccrocher. Et quand on sent comme ça qu'on n'a pas de soutien, ça ne nous donne pas envie de se motiver pour travailler. Mon père, il travaille sous Arras, il rentre tard, il part tôt. Je le vois pratiquement pas, donc il n'y a jamais le temps de m'expliquer. Mon papa, il travaille à Boyaval-Vampierre à Arras. C'est une entreprise de matériaux. D'accord. Donc quand c'est comme ça, il part tôt. Et vers Mel-Arras, il y a bientôt une heure de route. Donc le temps de faire la route, revenir, il n'y a pas beaucoup de temps pour la famille, quoi.
Et ta mère, elle n'a pas le temps non plus?
Bah, mes parents sont divorcés. Ah. Et là, je vis chez mon père pour l'instant, donc voilà.
Et vous avez participé aux différentes manifs, aux différentes mobilisations qu'il y avait eu ici, au lycée, là, ouais?
J'ai participé à toutes les manifestations, justement. Donc là, ils en refont une cet après-midi, à ce que j'ai compris. Ouais. Et je ne sais pas si je vais pouvoir y participer, justement, par rapport à mon retard, par rapport au travail, tout ça. Donc je vais essayer de rattraper un peu, vu que le bac arrive très vite, là.
Alors Maxime, Jonathan, et excuse-moi, rappelle-moi ton... Là, vous venez de finir les cours, c'est ça?
Oui.
Vous aviez cours de quoi?
Philosophie.
Ah, avec Madame Peter Schmidt, Camille.
Oui.
Et du coup, toute cette mobilisation pour soutenir le lycée, ça a commencé quand déjà?
Ça va faire un mois, je pense. En fait, les manifs pour le rectorat, tout ça, la fille qui avait fait ça dans la classe, elle avait pas eu des problèmes et on avait... Enfin, elle avait trop de responsabilités, elle en avait marre. Du coup, j'ai dit, c'est moi qui vais le faire. Et ben, j'étais venu à 7h, le premier en manifestation pour les profs, tout ça. Et je me souviens qu'au début, j'étais comme un abruti avec ma pancarte en train de crier, non, au poste supprimé, à l'éducation, bafouée. Et tout le monde rigolait, il y a personne qui m'écoutait, puis je continuais. Puis au bout d'un moment, il y en a un, deux qui sont venus à côté de moi. Puis au bout d'un moment, tout le monde a rejoint, mais je veux dire, même si c'est que un, je veux dire, il faut un début, quoi. Ouais, et de là, le jeudi, on a fait une manifestation. L'après-midi, on pouvait aller à Lille. C'était vraiment bien. Puisqu'on a vu quand même ce que c'était une vraie manifestation. Une grande manifestation. Parce que ça fait drôle de voir, de passer de 300 personnes à Neuilly-les-Mines à 5000 dans Lille.
Qu'est-ce que ça vous a appris, tout ça?
De faire des manifestations, tout ça. Bah, franchement, c'est quand même super intéressant dans le sens, ouais, voilà. De que quand on veut, on est super solidaire. Je prends l'exemple débile, mais dans notre classe, on s'entendait, mais on disait juste bonjour avec certains. on a fait des manifestations, maintenant on mange tous ensemble. Tout le temps.
Alors que ça fait 2 ans qu'on est dans la même classe, et c'est que depuis les manifestations, on a commencé à manger tous ensemble. La même semaine, ça s'est remarqué, c'était battant.
Ça montre que c'est bien de travailler tous dans un but commun. Puisque, je veux dire, il y a l'école et il y a ce qu'il y a derrière. Et faire des manifestations, se battre pour ce qu'on veut, ben, c'est surtout ce qu'il y a derrière. Et ça sert autant, je pense.
Jonathan, qui rêve aussi. Il faut faire très attention à une chose, en ce qui concerne l'instruction. Je ne sais plus qui disait qu'instruire, c'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu. Il faut faire très attention à ne pas trop instruire cette jeunesse, parce que l'instruction finit par vous faire réfléchir, et réfléchir, c'est souvent désobéir. Jonathan nous emmène chez ses parents.
Là, on rentre dans ta rue, c'est ça ?
Ma rue, elle est là, sur le coin.
Et là, c'est les maisons, c'est des maisons, c'est un peu toutes les mêmes, non ?
Bah, c'est des maisons des mines. Hein. Bah, on va dire que dans le passé, les mineurs, ils habitaient là. Parce que vous n'avez pas vu ? Ah non, vous n'avez pas vu. Il y avait un terrier là-bas. Et donc, c'était pour eux avant. Donc, ma soeur, elle habite là.
La maison là, juste à droite ?
Non, celle avec où on voit les carreaux. Où il y a des enfants qui courent.
Ah, dehors, là ?
Oui.
Ça, c'est tes petites nièces, alors ?
Oui, voilà. Bonsoir.
Bonsoir.
Qu'est-ce que
c'est ? Oh. Quelqu'un ? Bonjour monsieur.
Bonjour madame.
Bonjour.
Bonjour madame.
Bah asseyez-vous, hein. Allez.
Allez quoi ?
Moi je travaille à la Française de mécanique, à Douvrin, ouais. Automobile, pièces automobiles, ouais. Tout ce qui est pièces mécaniques. Non, j'ai commencé à travailler à 16 ans. Dès que j'ai pu quitter l'école, j'ai quitté l'école.
Bah, ouais, je serai première en bac. C'est bizarre à dire. Ouais, bah ouais, puisque bah, les parents sont pas allés jusque-là. Puis ma soeur, elle arrêtait avant.
L'idéal, c'est qu'ils restent le parc ici.
Pourquoi ?
C'est beaucoup mieux.
C'est pourquoi ?
Bah, je préfère, Jonathan, c'est tout.
Vous avez un peu peur
Pas,
je peux pas.
Bah, c'est bête.
Bah, c'est peut-être pas l'idéal qui reste, mais question pratique, ça aurait été mieux que ça soit par ici. Maintenant, s'il va au loin et puis qu'il trouve moyen de se loger et puis, enfin, moyen d'effectuer ses cours normalement et vivre normalement, bah. Voilà, puis question finance aussi, peut-être. Ah, il faut qu'il y ait des bourses. Il faut qu'il y ait des bourses. Ici, il n'y a qu'un salaire, donc. On peut pas payer de loyer, on peut pas payer. Il faut qu'ils trouvent une débourse. Hein.
Non, regarde, comme les professeurs ils connaissent les élèves, ils regardent souvent, ils nous demandent souvent où on en est dans nos demandes post-bac, dans nos bourses, tout ça. Mais voilà, c'est bien, c'est pour ça que c'est important de garder les professeurs et de pas les renvoyer à tour de bras. Puis c'est bien que le mouvement ne s'essouffle pas comme les retraites. Puisque là, on est vraiment dedans et on continue. En fait, j'ai l'impression, moi, c'est que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils font quelque chose de. Ils font une réforme, ils la font terrible, affreuse et ça change tout. Ils regardent comment ça se passe, ils voient que ça passe. Oh ben, ça s'est passé, donc on peut encore faire pire. Donc on va faire ça. Et si le exemple on laisse passer, ben on peut s'attendre dans un petit moment à avoir encore autre chose complètement pire. Puis comme on n'a rien fait avant, on va rien faire après. Enfin, je pense que ça se passe comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut continuer à se mobiliser et à agir pour l'éducation.
Moins de devoirs, plus de cours du soir.
Moins de devoirs, plus de cours du soir. Moins de devoirs, plus de cours du soir.
30, 40, 50 par classe. 30, 40, 50 par classe.
Vous êtes professeur de quoi ?
L'espagnol, moi. Apprendre une langue à 35 élèves par classe, je ne sais pas comment on peut faire. Si on calcule par heure le temps de parole d'élèves, ça doit faire à peu près 30 secondes, quoi. On prend le modèle allemand où ils sont très forts en langue. Ils travaillent avec des groupes de 15 élèves. Moi, ça fait plus de 30 ans que j'enseigne et j'ai jamais compris comment. Et là, c'est vraiment le summum. C'est vraiment le summum. L'année prochaine, il y a de fortes chances que j'ai des classes à 40 élèves.
40 élèves ?
Oui. Ben oui, c'est ce qui est prévu. Eux, c'est qu'une logique mathématique et financière. Le service public, pour eux, c'est fini. Ça n'existe plus.
Vous appelez comment, pardon ?
Gilles Lebert.
Et vous êtes professeur de quoi ?
De philosophie. Bon, c'est pas une question de suppression du service public. Il y aura un service public, mais un service public Il y aura un service public de moins bonne qualité, en fait, en fonction des territoires et en fonction des établissements et des régions. Moi, c'est ça qui me scandalise. L'Académie de Lille, ça fait des années qu'on perd 6 à 700 postes par an. Donc, on a complètement massacré l'éducation dans le Nord-Pas-de-Calais, en sachant que dans le Nord-Pas-de-Calais, on est dans un territoire qui, historiquement, a souffert de la désindustrialisation, qui souffre du chômage, qui a un niveau d'éducation qui est moindre que dans d'autres académies. Et on continue de supprimer des postes, encore plus ici qu'ailleurs. Et on trouve ça injuste. Enfin, moi, je trouve ça injuste parce qu'on sait très bien que pour nos élèves, l'éducation, c'est la seule manière de pouvoir sortir de leur milieu et avoir accès à une réelle mobilité sociale. Mais moi, je trouve ça injuste. Injuste qu'on leur mente, en fait. Hein. Qu'on leur mente. On leur promet des choses qui n'existeront pas. Disons qu'avec l'autonomie des établissements qui se met en place, on sait très bien qu'à terme, le bac n'aura plus tout à fait une valeur nationale et égale sur tous les territoires. Quoi. Moi, c'est ça qui me... C'est l'inégalité qui va être créé de fait entre les établissements et entre les territoires qui est en train de s'installer, quoi. Apparemment, on avait un peu l'idée d'égalité des chances avec les créations de ZEP, de toutes ces appellations-là, qui permettaient à certains établissements d'avoir des moyens supplémentaires. Là, avec l'autonomie des établissements, j'ai l'impression qu'on fait le chemin inverse. C'est-à-dire, on a tous la même chose, hein, chacun est autonome, chacun est libre, mais on reconnaît plus le fait qu'il y a des territoires qui sont défavorisés par rapport à d'autres. Et donc, on n'arrive plus à restaurer cette égalité qui doit être censée être la mission de l'éducation, quoi. La mission de l'éducation, c'est quand même de permettre à tous les élèves, à tous les enfants de ce pays d'avoir les mêmes chances, quoi. Bah là, en fait, on reproduit des inégalités sociales.
Destruction d'une civilisation. Merci à tous et à toutes. C'était un reportage de Charlotte Perry. Merci à Camille, Peter Schmidt, Omérine, Nadia, Jonathan, aux profs et aux élèves du lycée d'Artois, Hélène Le Gallois, Monsieur Clarisse et Jacques Villardy. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission La Base, j'y suis. À la technique aujourd'hui, Éric Morin, Grégory Wallon, Coy Nguyen et Franck Aderer ont réalisé cette émission à cité d'Agnès Le Bot. Et Marina Touillez attend vos messages sur le répondeur de La Base, j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Énergie renouvelable.
Transport.
Logement.
Emploi.
Écolabel. Le développement durable, c'est chaque jour plus concret.
Du 1er au 7 avril, c'est la semaine du développement durable. Pour connaître les manifestations près de chez vous, rendez-vous sur semaine-du-développement-durable.gouv.fr.
Avec le Grenelle Environnement, entrons dans le monde d'après. Ceci est un message du ministère du Développement Durable et de l'ADEME.
Ah ouais, entrons dans le monde d'après. On se retrouve demain à 15h pour La Base, j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Delphine Simon. Salut.
Les opérations pour remonter à la surface les débris du vol Rio-Paris et les corps des victimes débuteront dans 3 semaines, 1 mois. C'est ce qu'annonce la ministre des Transports, Nathalie Kosciusko-Morizet. Hier, les enquêteurs français ont localisé des débris de l'Airbus A330 engloutis au large du Brésil. Il y a les deux moteurs, une partie de la voilure et les trains d'atterrissage. Un espoir pour les familles des 228 victimes qui attendent depuis 22 mois de connaître la vérité sur les causes de l'accident. À l'image de Dominique Henry, il a perdu son frère, originaire de La Réunion.
Ça représente pour moi et ma famille un gros espoir. Toutefois, il nous faut rester prudents puisque les conditions d'accès apparemment sont difficiles. Nous nous sommes informés par l'association à laquelle nous avons adhéré, Entraide et Solidarité Famille AF447. Nous espérons véritablement que cette fois-ci, en plus des épaves, ils localisent les fameuses boîtes noires. Pour connaître très exactement l'enchaînement des causes, hein, des circonstances, des événements qui ont amené à cette tragédie, il n'y a que les boîtes noires qui pourront nous donner le déroulement, le scénario exact. Les moteurs, bon, c'est une chose, mais aussi et surtout, ce que nous espérons, c'est la découverte des fameuses boîtes noires. Et surtout qu'elles soient encore exploitables presque 2 ans après avoir séjourné dans l'eau par 4000 mètres de fond.
Propos recueillis par nos confrères de Radio O. Un avion des Nations Unies s'est écrasé à l'aéroport de Kinshasa en début d'après-midi. 6 personnes ont perdu la vie selon les premiers éléments. L'appareil s'est écrasé au moment de son atterrissage. La France va envoyer 150 soldats supplémentaires pour protéger les expatriés de Côte d'Ivoire. Des soldats basés au Gabon. Ils viendront renforcer l'opération Licorne qui contrôle notamment l'aéroport d'Abidjan. Pour l'heure, il n'est pas question d'évacuer les 12 000 Français de Côte d'Ivoire. Pour le Premier ministre François Fillon, on est toujours dans une phase de regroupement. La reprise des bombardements en Libye, les forces du colonel Kadhafi pilonnent à coups d'obus de mortier la ville de Misrata à l'est du pays depuis ce matin. Le régime libyen qui semble désormais à la recherche d'une solution diplomatique, alors que deux des fils du dirigeant libyen proposent une solution sans Kadhafi, affirme le New York Times. Tripoli a envoyé hier un émissaire en Grèce. Il doit se rendre en Turquie et à Malte. Enfin, la vidéo du lapsus de Frédéric Lefebvre qui fait les bonheurs du net, interrogé pour le site du Figaro. Le secrétaire d'État au commerce avoue que son livre de chevet s'appelle Zadig et Voltaire. La vidéo de ce lapsus qui transforme le conte philosophique de Voltaire en marque de prêt-à-porter est disponible cet après-midi sur des dizaines de sites et de blogs.
Tous les jours.
On va pas rentrer dans les détails quand même.
À partir de 11h.
Vous êtes pas du genre
le fou
à faire.
du roi.
Stéphane Bern.
C'est un rôle où vous êtes juste deux avec des matraques et des menottes.
Pour assister au prochain Fou du Roi en direct du studio 106 avec Valérie Zetoun et Zep, rendez-vous demain mardi dès 10h dans le grand hall de la Maison de Radio France.
Ah, on peut pas savoir ce qui se passe après.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Le Fou du Roi, Stéphane Bern.
Ben oui.
Tous les jours sur France Inter à partir de 11h. France Inter.
La différence.
Voilà, il est 16h04 et vous retrouvez Frédéric Lodéon. Bonjour Frédéric.
Bonjour Delphine. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Quelques nouveautés pour commencer, avec de la musique de dames, des compositrices françaises. Alors, ce qui est dommage, c'est que le livret est écrit en anglais et en allemand seulement, mais enfin, c'est déjà un bel effort proposé par Cybelle Records. Et je vous propose, il y a Louise Farinck, Lily Boulanger, je vous propose un morceau de Pauline Viardot-Garcia. Pauline, c'était la sœur de la Malibran, la fameuse Malibran qui était très belle. Pauline un peu moins, mais enfin, elle a fait une superbe carrière quand même dans les plus grands théâtre, elle avait un très beau répertoire, elle chantait Gluck, elle tenait des rôles de soprano ou même plus grave, des rôles de contralto grâce à une exceptionnelle possibilité, une tessiture vocale invraisemblable, une technique raffinée, une grande sensibilité, etc., etc. Et puis elle a composé, en plus pour preuve, voici une tarentelle tirée des 6 morceaux pour violon et piano de Pauline Viardot-Garcia. Thank you. Tarentelle, tirée des 6 morceaux pour violon et piano de Pauline Viardot-Garcia, interprétée par Annette Barbara Fogel au violon et Ayako Tsuruta. Tsuruta, évidemment, c'est un nom japonais. Et Ayako, ça sonne aussi, bien sûr, japonais. Le Japon nous est sensible en ce moment, particulièrement. Donc, je signale un concert de solidarité donné par les étudiants du Conservatoire Régional de Paris. C'est 14 rue de Madrid dans le 8e. Et c'est jeudi qui vient, jeudi à 20h30 à l'auditorium Marcel Landowski. Participation libre, une urne sera à disposition. On prend seulement les versements par chèque, libellé à l'ordre de Fondation de France ou à Croix-Rouge. Fondation de France ou Croix-Rouge. Et c'est avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France, le ministère de la Culture. C'est du sérieux, bien sûr. Un programme très varié qui va de Mozart en passant par les compositeurs japonais, par Berlioz, par des gens qu'on connaît beaucoup comme Camille Saint-Saëns ou bien Genin, qu'on entend moins, Mendelssohn, bien sûr, fameux. Rendez-vous donc 14 rue de Madrid dans ce joli conservatoire, dans le 8e métro Europe, jeudi 20h30 pour le Japon. Nouveauté aussi.